Vive la Sociale. Rebonjour aux éditeurs, puisque bon, là nous sommes aujourd'hui en direct après une longue période de rediffusion. Ce soir, nous avons invité Annie Lobé qui va nous parler des méfaits du compteur Linky. D'abord, peut-être qu'on va lui demander de se présenter, nous parler de pourquoi elle s'intéresse au sujet. Voilà, donc je vous passe la parole, Annie.
Oui, bonsoir et merci de m'avoir invitée. Donc oui, je suis Annie Lobé, je suis journaliste scientifique indépendante et j'ai démarré une enquête il y a 15 ans sur la téléphonie mobile, tout simplement parce que j'avais rencontré un photographe de publicité qui avait travaillé pour Nokia, qui faisait des photos de portables et qui m'avait dit à l'époque, chez Nokia, les ingénieurs savent que les téléphones portables sont dangereux. À l'époque, je m'étais dit, si c'est dangereux, ça va être grave, vu le nombre de personnes exposées. Et si c'est dangereux, comment se fait-il que, pour l'instant, tout le monde pense que rien n'est prouvé? Et donc, c'est comme ça que je me suis lancée dans cette enquête, finalement, qui a été une enquête au long cours. Et alors, pour le Linky, c'est aussi par la question de ces émissions d'ondes que je suis arrivée sur ce sujet, puisque les radiofréquences injectées par ce compteur dans les circuits électriques ont été officiellement reconnues le 31 mai 2011 comme potentiellement cancérigènes par le Centre international de recherche sur le cancer. Et en fait, c'est en regardant la loi de transition énergétique à cause du nucléaire que je me suis aperçue en octobre 2014 qu'il y avait donc cet article qui instaurait une sanction de 1 500 € en cas de refus de ce compteur Linky. Et donc là, parce que bon, le compteur Linky, ça faisait longtemps que c'était dans l'air, il y avait des associations qui s'en occupaient, mais c'était un petit peu une espèce d'arlésienne. Et là, quand j'ai vu que ça devenait vraiment sérieux, donc, j'ai donné l'alerte. Et il s'en est ensuivi une grande mobilisation de la part des personnes électrosensibles. Et grâce à elles, puisqu'elles ont envoyé en fait des centaines de mails chaque jour aux députés et aux sénateurs pendant la préparation de la loi, et aussi l'association Robin des Toits qui a mobilisé ses réseaux, et donc grâce à toute cette mobilisation, la sanction de 1 500 € ne figure pas dans le texte final qui a été publié signé le 17 août 2015 et publié le 18 août 2015. C'est donc la loi dite de transition énergétique qui instaure le déploiement des compteurs Linky, mais en précisant par exemple que il doit y avoir une autorisation express du consommateur, du client, pour la transmission de ces données, ce qui veut dire que, en fait, actuellement, on peut refuser le compteur Linky, également parce qu'il n'y a pas de sanction en cas de refus. Donc, on peut refuser le compteur Linky, c'est ça qui est très important de savoir. Et je le dis d'emblée parce que souvent, même les locataires ont des doutes là-dessus. Oui, les locataires aussi peuvent refuser le compteur Linky. En fait, c'est l'abonné qui est contacté, c'est l'abonné qui est décisionnaire. Donc, qu'il soit locataire ou propriétaire, il est occupant et c'est lui qui peut décider.
Il faudrait peut-être commencer par dire à aux auditeurs qui ne sont pas encore au courant, parce qu'il y en a sans doute qui sont pas.
C'est vrai, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est.
Qu'est-ce que c'est que ce Linky, donc c'est un compteur
électrique.
D'électricité.
Voilà. Alors, il y a 3 compteurs qui sont prévus, même 4. Dans la loi de transition énergétique, il y en a 3. Il y a le compteur d'électricité, qui s'appelle Linky, le compteur de gaz, qui s'appelle Gaspar, et également un compteur individuel pour l'eau chaude, c'est-à-dire pour le chauffage, dans les immeubles à chauffage collectif. Donc, c'est le compteur Linky, c'est celui qui fait le plus parler de lui parce qu'il est déjà en cours de déploiement. Et alors, qu'est-ce qu'il a de nouveau? En fait, il va transmettre nos données de consommation en permanence. Jusqu'à présent, il y avait quelqu'un qui faisait une relève, soit vous-même, vous pouviez la faire, ou bien quelqu'un venait tous les 2 mois ou tous les ans, bon. Et vos factures étaient estimées, et puis quand il y avait la relève par le distributeur, RDF, qui se renomme maintenant Enedis, à ce moment-là, la facture était rectifiée. Donc, avec le compteur Linky, vos données de consommation électrique sont transmises en permanence, à chaque, toutes les 10 minutes, ils appellent ça la courbe de charge, avec le compteur actuel. Par la suite, ce sera carrément en temps réel, puisqu'il y a un module qui s'appelle ERL, émetteur radio Linky, dont l'emplacement est déjà prévu sur le compteur actuel et qui va changer le mode de fonctionnement de ce compteur. Ce qu'il faut retenir, c'est que à chaque instant, à l'extérieur de chez vous, on sait ce que vous faites chez vous grâce à ce compteur Linky, enfin à cause de ce compteur Linky. Et le problème, c'est que cela porte atteinte à notre vie privée. Enfin, le problème, l'un des problèmes.
Un des problèmes. Voilà. Un des problèmes. Donc, bon. Et qu'est-ce qu'ils veulent c'est quoi le but du jeu de...
Leur but, c'est de récupérer justement nos données. C'est-à-dire que actuellement, la consommation d'électricité a tendance à diminuer ou à stagner. ERDF, EDF, toutes ces sociétés, elles ont découvert un nouveau filon. C'est l'or, on appelle ça l'or noir. Aujourd'hui, si vous lisez les livres comme L'homme nu de Marc Duguin et Christophe Labbé, on vous explique que les données, nos données, c'est le nouvel or noir. Alors, qu'est-ce que c'est que nos données ? Ce sont toutes les traces numériques que l'on va laisser en faisant, par exemple, en ayant une carte de fidélité dans un magasin, en ayant un téléphone géolocalisé, en envoyant des emails qui sont lus. Par exemple, si vous êtes chez Gmail, ils considèrent, c'est dans les conditions générales, que vous acceptez qu'ils lisent vos emails. En utilisant notre carte bancaire ou... quelles que soient les activités qu'on va faire qui ont une trace numérique, par exemple, toutes les factures qui vous sont envoyées par Internet, au lieu d'être envoyées par le courrier, ça constitue des traces numériques. Donc, quoi que vous fassiez, si une facture vous est envoyée par Internet, eh bien, même si vous n'avez pas payé par carte bancaire, ça rentre dans le big data. Big data, ça veut dire gros volume de données. Et alors, on a un peu tendance à croire que ces données, personne ne sait quoi en faire, il y en a trop, etc. En réalité, la nouvelle façon de procéder, c'est de stocker toutes ces données de tout le monde, y compris les gens qui n'ont rien à se reprocher, comme on dit, et pour pouvoir les utiliser, d'une part, pour faire le profil de toutes les personnes, profiler les gens, c'est pour les cibler, en fait, pour soit des actions de communication marketing, c'est le nouveau marketing ciblé. Hein, aujourd'hui, si vous consultez un site internet, après, vous avez remarqué, vous avez plein de publicités qui sont en lien avec, par exemple... Il y a une chose qui m'a très étonnée, mais enfin bon, même le jeu Pokémon Go, en fait, ça en fait partie, ce truc de Big Data. Je me souviens plus comment il s'appelle, un philosophe qui avait publié dans Libération un article dans lequel il expliquait qu'il avait joué à Pokémon Go. Donc, il avait accepté les conditions générales. Et dans ces conditions générales, il y avait de donner accès à la société à son historique de navigation et à la lecture de ses emails. Donc ça, on le sait pas. Mais enfin, ça fait partie des conditions générales. Et puis donc, il avait chassé ces petits machins, là, je ne sais même plus comment ça s'appelle, et il s'était rendu compte qu'on l'avait envoyé dans un magasin Go Sport. Et une semaine avant, il avait consulté, parce qu'il cherchait à acheter un vélo, donc il avait fait des recherches sur Internet à ce sujet-là, comme par hasard, voilà. Donc c'est pour vous dire que...
Les emails, c'est aussi les recherches.
Les recherches qu'on fait sur Internet, oui, parce qu'ils savent à partir de là quels sont nos centres d'intérêt. Et comme on peut relier ça avec une adresse IP de votre ordinateur ou bien celle de votre téléphone, si vous faites les recherches par le téléphone, donc c'est le numéro du portable, ou enfin je ne sais pas comment ils font, mais enfin, en tout cas, ils peuvent tracer précisément ce que fait chaque personne.
Oui, alors pour revenir au compteur Linky, c'est quoi les données que le compteur Linky peut transmettre ?
Le compteur Linky, lui, va transmettre ce que vous faites avec vos appareils électriques. Si vous êtes sur ordinateur, si vous êtes... parce qu'en fait, on peut décoder la signature électromagnétique de chaque appareil. Ça, c'est quelque chose, on a trouvé une thèse de l'université de Grenoble avec comme superviseur une personne qui travaille chez EDF. Donc, on sait très bien que toutes ces choses qui sont possibles de faire, c'est vraiment dans les objectifs. Je ne dis pas que ça peut se faire actuellement, aujourd'hui, mais en tout cas, c'est ça leur but. Puisque vous me demandez quel est le but. Le but, c'est de nous surveiller, y compris avec ce qu'on fait chez nous. Parce que jusqu'à présent, si vous rentrez chez vous et que vous éteignez votre portable, ils ne pouvaient rien savoir sur ce que vous faisiez chez vous. Mais avec le Linky, c'est comme si les murs de vos maisons deviennent des baies vitrées, sans rideaux ni volets, puisque à l'extérieur de chez vous, on va savoir en permanence ce que vous faites. On va déduire si vous n'utilisez pas l'électricité, que vous êtes couché, si la lumière qui s'allume la nuit, etc. Alors après, si on croise avec les données des compteurs d'eau, on peut même savoir si vous avez la chiasse ou pas. Enfin, c'est un truc de dingue, quoi, cette surveillance.
ERDF, c'est quoi qui l'intéresse dans tout ça ?
Vendre ces données. Évidemment, lui, il ne va rien en faire, parce que lui, il n'a rien d'autre que de l'électricité à nous vendre. Mais par contre, s'il vend ses données aux assureurs, aux banques, est-ce que vous savez, par exemple, que quand vous demandez un prêt aujourd'hui à une banque, ce n'est pas une personne qui décide, c'est un algorithme, à partir justement du profilage qu'on a fait à partir de vos achats, parce que la banque, elle a vos données de carte bancaire. Ça va tellement loin que j'ai rencontré une personne qui m'a expliqué que, bon, elle a décidé de ne se servir de sa carte bancaire que pour tirer de l'argent, retirer de l'argent. Et quand il a fallu renouveler sa carte, son conseiller lui a dit « Ah, mais je suis désolée, mais ça ne va pas être possible. » Alors, elle lui demande « Mais pourquoi ?» Et il répond « Parce qu'on ne peut pas faire votre profil. » Donc, il a fallu, heureusement, c'est une personne qui avait de la ressource, elle a dit « Mais vous avez des incidents de paiement sur mon compte ?»« Non. » »« Vous recevez bien, c'est une enseignante, tous les mois, mon salaire de 1 547 €, oui. » Donc, il a été obligé de renouveler la carte. Mais c'est pour vous dire que si elle n'avait pas eu de répondant, elle ne pouvait même plus avoir de carte bancaire. Donc, quand on croit que ce monde-là, c'est un monde pour dans plusieurs années, dans plusieurs dizaines d'années, non, on est déjà dedans. Autre anecdote importante pour savoir à quel point on est tracé et le fait que l'utilisation qui en est déjà faite peut impacter notre vie, c'est cette même personne qui a témoigné d'une amie à elle qui était en procédure de divorce avec un salarié de la RATP. Qui n'était pas du tout au service informatique. Mais malgré tout, il a réussi par un collègue à se procurer ses relevés du pass Navigo, ses déplacements, et il a fourni ça au juge en disant « Voyez, c'est une mauvaise mère, elle ne rentre pas directement après son travail chez elle, elle part dans le 15e faire du yoga, des choses comme ça. » Et à partir de ça, le juge en première instance lui a donné la garde des enfants à cet homme, alors même qu'il lui avait déjà fracturé 2 fois la mâchoire. C'est un homme violent. Et il a fallu que cette femme fasse appel, change d'avocat, que l'avocat soulève le fait que c'était des pièces obtenues illégalement. Aujourd'hui, c'est encore illégal de fournir ce genre de pièces. Pour qu'en appel, elle puisse avoir la garde de ses enfants. Mais vous imaginez comment, déjà à partir des traces numériques qu'on laisse, eh bien, voilà, sa vie aurait pu être complètement changée si elle n'avait pas pu avoir la garde de ses enfants. Donc, c'est pour vous dire à quel point... Parce qu'une fois, il y a quelqu'un, je parlais de ça, il me disait, bon, de toute façon, ils ne savent pas quoi en faire de toutes ces données. C'est faux. C'est faux. Ces données, aujourd'hui, il y a des algorithmes très, très puissants et de plus en plus puissants qui les traitent d'ores et déjà. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, je vous recommande très chaudement la lecture du livre « L'homme nu » de Marc Duguin et Christophe Labbé, que j'ai déjà cité. C'est chez Lafon et Plon. C'est un livre qui se lit facilement. Et qui vous apprendra beaucoup de choses sur ce qu'il y a dans la tête des patrons du big data, hein, les patrons de ce qu'on appelle les GAFA, c'est-à-dire Google, Apple, Facebook et Amazon, c'est-à-dire les grosses boîtes américaines. Ce sont eux qui mettent des milliards et des millions sur la table pour payer des chercheurs qui mettent en œuvre ces algorithmes. Ça tombe pas du ciel. C'est des gens qui mettent de l'argent pour arriver à leur fin. Et on est d'ores et déjà, si vous voulez, tracé, ciblé. Et ce que va faire le Linky, c'est qu'il va reculer les limites de l'acceptable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est également suivi dans son intimité personnelle, alors même qu'elle est protégée par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui définit la vie privée. Il y a aussi, je crois, c'est l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme en France. Enfin bref, il y a des lois qui nous protègent, qui protègent notre vie privée, qui considèrent que la vie privée, c'est quelque chose d'important. Et donc, si on accepte le Linky, ça recule les limites de l'acceptable. Ce compteur qui va, c'est un espion en fait, un mouchard qui à l'extérieur va dire ce que vous êtes en train de faire chez vous, à chaque instant. Puisqu'on ne peut pas ne pas utiliser les appareils électriques, si vous voulez.
Mais ce qui est intéressant et qu'il faut que les auditeurs comprennent, c'est qu'il ne s'agit pas d'un complot. Il s'agit juste de, comment dire, de la vie réelle. Il s'agit du commerce qui se passe sur notre tête. Et derrière notre dos, avec les données que nous fournissons sans avoir choisi de les fournir.
Oui, et que nous fournissons gratuitement en plus. Oui, c'est-à-dire que nous, on n'est pas payé pour avoir donné ces données.
Oui, et je pensais encore à un autre exemple, celui des assurances médicales. C'est un marché en pleine expansion, avec les données fournies par Linky et croisées avec les données de consommation des cartes bancaires et des cartes de fidélité des supermarchés. On peut profiler la consommation de quelqu'un qui boit un peu plus que
quelqu'un qui fume, il va avoir ses
fumes, quelqu'un qui se couche tard, quelqu'un qui
Tout
peut
à
avoir
fait.
Des problèmes
et donc adapté en fonction des tarifs.
Et donc le profil fournira la possibilité de augmenter les tarifs pour
les gens qui ont un comportement considéré comme malsain, quoi. Et donc, à partir de là, on peut être sûr que ça peut même aller beaucoup plus loin. Figurez-vous que quand j'avais envoyé mes premiers emails au sénateur, il y en a un qui m'a répondu, qui m'a demandé de venir le voir. Bon, lui, ce qui l'intéressait, c'était l'aspect nucléaire, les drones sur les centrales, etc. Mais dans le courant de la conversation, il m'avait reçu donc au Sénat, il me dit que son épouse ou ex-épouse, peu importe, est cardiologue. Et pareil, il a appris qu'aujourd'hui, la France n'a plus les moyens, cancérologue, qu'aujourd'hui, la France n'a plus les moyens de soigner tout le monde. Alors, je dis, mais selon quels critères on va décider de soigner certaines personnes et pas d'autres? Il n'a pas répondu pour la France, il a répondu pour l'Angleterre. Il a dit qu'en Angleterre, si vous fumez et que vous avez un cancer du poumon et que vous continuez à fumer après le diagnostic, eh bien, les soins ne sont pas remboursés. Le traitement du cancer n'est pas remboursé. Mais en Angleterre, c'est une règle qui est connue de tout le monde. En France, si on utilise ces systèmes algorithmiques et tout ça pour déterminer qui va être soigné et qui va ne pas l'être, ça se fera à l'insu des personnes. Et si vous voulez, le plus choquant dans toute cette histoire, c'est qu'on est vraiment au-delà de Big Brother. C'est Big Brother puissance 1000, parce que dans le livre, c'est quoi déjà le titre du...
1984,
voilà. Eh bien, le héros sait qu'il est surveillé, alors que nous, on n'en est même pas conscient de à quel point on est d'ores et déjà surveillé et comment ça va vraiment être, si on y prend garde et si on ne s'y oppose pas, de plus en plus.
Bon, voilà le premier aspect... Les premiers méfaits du compteur Linky. On va faire une petite pause.
Ça promet. Par les pluriels, 106.3, c'est Vive la sociale. Et ce soir, nous discutons de l'installation et des problèmes du compteur Linky par RDF avec Annie Lobé.
Qui anime le site santépublique.fr.
Santépublique-édition.fr. Voilà. Donc, effectivement, sur ce site, il y a beaucoup d'informations puisqu'il est principalement actualisé sur le Linky actuellement. Notamment sur les façons de refuser. Alors, je ne sais pas bon, si on continue. J'aimerais bien parler des pannes, parce que les pannes provoquées par le Linky, ça vaut quand même le détour. Par exemple, j'ai eu en ligne en juillet une femme qui est en Bretagne et qui m'expliquait qu'elle a refusé le compteur Linky, c'est d'ailleurs pour ça qu'on était en conversation. Et par contre, elle a quand même eu des problèmes. Alors, quel genre de problème? Elle est en bout de ligne, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne derrière elle. Et donc, elle a des gîtes. Donc, vous savez comment ça se passe quand on a des gîtes. Entre deux locations, on met toute la vaisselle dans le lave-vaisselle et on la lave. Donc, elle met son lave-vaisselle en route et elle part. 12 heures après, elle revient. Ça tournait encore. Donc, le genre de dérèglement sur les appareils électriques. Il y a une autre personne qui m'a envoyé des témoignages. On a 8 pages. Et il y a 2 personnes qui disent la même chose sur des fours qui ne s'arrêtent plus, en Bretagne aussi. Alors, comment je suis venue personnellement à la question des pannes? C'était donc dans la ville où j'habite, il y a une personne qui travaille dans un pressing et qui a eu le changement de son compteur. Le jour même de l'installation du compteur, sa table à repasser professionnelle est tombée en panne. Alors, elle était décomposée parce que, bon, elle en a eu pour 600 euros de réparation. Et 3 semaines après, c'est son fer à repasser qui tombait en panne. Donc là, elle n'a pas remplacé par un autre fer professionnel parce qu'elle prenait sa retraite. Elle est juste partie chez Darty chercher un nouveau fer à repasser normal, enfin un petit fer. Il y en a d'autres qui sont tout le temps chez Darty. C'est des personnes qui habitent à Bagneux dans le 92. Et alors là, ils ont sur le palier 3 compteurs Linky avec en dessous 3 concentrateurs. Je connais leur fille. Alors je dis, mais comment t'es sûre que c'est des concentrateurs? Elle me dit, bah, c'est écrit dessus.
Alors, il faudrait nous expliquer ce que c'est que le concentrateur.
Alors, le concentrateur, normalement, il n'est pas à côté du compteur. Normalement, c'est un élément qui est placé dans les transformateurs, les postes de transformation dans chaque quartier. Donc, le compteur Linky...
Et ça sert à quoi?
Alors, justement, le compteur Linky, lui, va transmettre les données jusqu'au concentrateur. Et après, le concentrateur, lui, il va les transmettre au système d'information centrale par GPRS, c'est-à-dire par onde... des antennes qui de même type que celles des téléphones mobiles. Donc, c'est des antennes qui vont être ajoutées. Il y en a plus, environ 700 000 qui vont être ajoutées dans chaque poste de transformation, donc à hauteur d'homme. Hein, parce que ERDF va mettre ça sur les postes qui appartiennent à EDF pour ne pas avoir à payer de location. Et ce qui est grave, c'est que donc on ajoute aussi, avec le système CPL, une pollution de micro-ondes de même type que les antennes de téléphonie mobile.
Et vous savez combien il y a de transformateurs
740 000.
740 000.
Voilà.
Donc 740 000 antennes.
Antennes en plus. Et en plus, il y en aura, parce qu'à la campagne, comme le CPL, le courant porteur en ligne, qui lui est dans la gamme des radiofréquences entre 63 000 et 74 000 Hertz. Donc lui, il ne peut pas aller à plus de quelques centaines de mètres. Donc ils vont aussi rajouter des petites antennes sur les poteaux électriques pour que tout ça transmette. Alors, si vous voulez, EDF prétend que c'est indispensable, tout ce système, pour mieux équilibrer la production et la consommation d'électricité en temps réel, puisqu'on ne peut pas stocker l'électricité. Mais en réalité, cet équilibre, ils le font déjà. Et comment ils le font? C'est parce qu'ils ont déjà les données qui remontent justement des postes de transformation eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin, pour équilibrer cette consommation générale, de descendre jusqu'à l'abonné. Ils s'arrêtent au poste de transformation et ça suffit. Donc, tous les arguments, en fait, qu'ils avancent comme avantage de ce compteur sont des arguments complètement fallacieux. C'est des arguments de communication, de publicité, qui n'ont pas de fondement réel. Ils vont dire aussi qu'il n'y a plus besoin, que les factures sont non plus estimées, mais réelles. Mais aujourd'hui, vous pouvez déjà, si vous le souhaitez, en communiquant votre relevé vous-même tous les deux mois, ou enfin, ça s'appelle le relevé confiance ou ma relève, selon l'opérateur que vous avez. Vous pouvez toujours téléphoner, vous savez quand est la date de la prochaine facture. Soit vous téléphonez, soit vous envoyez un email. Avant, c'était même possible par courrier postal, maintenant ça ne l'est plus. En tout cas, vous pouvez communiquer votre consommation, ce qu'on appelle l'index. Vous avez cette possibilité, et moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de le faire maintenant. Pour justement avoir cet argument de dire, bah écoutez, moi, j'ai pas besoin d'un compteur Linky pour avoir des factures précises. Je transmets moi-même ma consommation tous les deux mois avant l'établissement de la facture. Il y a une autre chose aussi qui peut être conseillée, c'est de réduire aussi sa consommation personnelle. Alors pour ça, on fait comment? Enfin, réduire les pics de consommation. Parce qu'en fait, EDF dit qu'ils ont besoin de réduire les pics de consommation et qu'avec le système Linky, ils vont pouvoir éteindre à distance nos appareils. Donc, ça sera possible avec l'ERL, l'émetteur radio Linky, qui en fait pilotera à distance nos radiateurs, les chaudières, etc. Un émetteur, oui, qui sera inséré dans le compteur.
Qui actuellement n'est pas activé. En
fait. Qui actuellement n'y est pas, mais ça fait partie des évolutions prévues. Hein. Et donc, alors pour pouvoir leur couper l'herbe sous le pied sur le fait qu'il y a des pics de consommation, alors déjà, premièrement, c'est vrai que la France a un problème de pics de consommation avec, en fait, elle représente la moitié de la pointe européenne. Vous savez, le pic de consommation, c'est entre 18h et maintenant peut-être 23h. Tout le monde rentre chez soi, allume les radiateurs, la télé, les ordinateurs, etc. Donc, il y a beaucoup d'appels, enfin, il y a une demande importante. Donc, la meilleure façon de résoudre ce problème, ce serait de réduire le nombre de radiateurs électriques. Puisqu'en fait, par exemple, en Allemagne, savez-vous que la majeure partie des consommateurs allemands a des compteurs de 3 kVA, 3 kilos, ça veut dire en fait qu'ils ne peuvent pas brancher plus de 3000 watts en même temps. Ça veut dire qu'on ne peut pas mettre plus que, mettons, l'aspirateur et le four en même temps. Si vous voulez rajouter la machine à laver, ça fait sauter les plombs. Donc là, on peut aussi nous-mêmes décider de pas tout allumer en même temps, de pas tout faire en même temps. On peut étaler en fait dans le temps la consommation. Par exemple, en France, ça c'est Bernard Laponche, un spécialiste du nucléaire qui l'a dit, l'équivalent de la production de 10 à 12 réacteurs nucléaires est excédentaire pendant la journée. Donc la France a produit trop d'électricité pendant la journée et elle en manque le soir. Évidemment, parce qu'à l'époque où ils ont décidé, parce qu'il y avait justement un excédent de production électrique des centrales nucléaires, d'équiper tous les appartements de radiateurs électriques, C'était pas cher l'électricité. Donc les gens, bon, ils laissaient la journée, le chauffage, et puis peu importe, il y avait à la limite moins de pics que maintenant. Mais maintenant, comme les gens éteignent, les gens qui ont des radiateurs électriques, les éteignent la journée, tout le monde rentre chez soi le soir à peu près à la même heure et allume à ce moment-là son radiateur. Donc il y a énormément de besoins, puisque bon, bah, les apparts sont froids, donc il faut ça pompe. Voilà, donc en Allemagne, ils ont trouvé une solution, c'est qu'ils n'ont pas de radiateur électrique autant que nous. Et donc, la vraie solution au problème de la pointe, c'est de remplacer le chauffage électrique par un autre mode de chauffage.
Ce qu'ils ont fini par reconnaître.
Mais pas du tout. Regardez la loi de transition énergétique, il n'y a absolument rien pour interdire l'installation des chauffages. Même encore aujourd'hui, si vous construisez des immeubles neufs, il n'y a rien qui vous interdit de mettre des radiateurs électriques dedans. Rien du tout. Dans la loi de transition énergétique, ce n'est pas évoqué du tout.
Il en a été question à propos des isolations d'appartements, non?
C'est pas pareil. Ouais. Vous isolez un appartement, bon, bien sûr, vous allez peut-être réduire la demande en chauffage, mais un radiateur électrique, c'est un radiateur électrique. Ça va toujours, ça fait 1200 watts, un radiateur électrique. Donc, si vous en avez trois, vous êtes déjà à 3600 watts. Donc, évidemment, quand on est chez soi, on n'a pas la possibilité de choisir ça, et notamment le chauffage. C'est pas toujours facile, mais par contre, on peut éviter d'allumer tous ces appareils en même temps. On sait très bien qu'on fait du gaspillage. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'ils ont des problèmes, parce que comme le prix d'électricité a beaucoup augmenté, c'est pas vraiment d'ailleurs le prix d'électricité qui a augmenté, c'est surtout les taxes. Une personne que je connais qui a très bien classé ses factures, on a fait le calcul ensemble, les taxes ont été multipliées par 6 en 6 ans. Donc, aujourd'hui, alors l'année dernière, c'est 30% du montant de chaque facture qui était des taxes. Quelqu'un qui a fait le calcul en 2016 m'a dit que maintenant, c'est passé à 46%. Donc, pratiquement la moitié de votre facture d'électricité, ce sont des taxes. Donc, c'est marqué par exemple CTA, ça veut dire contribution tarifaire d'acheminement. C'est le petit nom du TURP, T-U-R-P-E. C'est le nom de la taxe qui finance ERDF. ERDF qui nous colle les Linky partout. C'est avec cette taxe qu'ils sont en train de payer les 7 milliards que vont coûter les compteurs Linky. Donc, on paye déjà, en fait. Et le compteur Linky va encore augmenter la facture et ce n'est pas le moindre des problèmes parce que le compteur Linky, au lieu de comptabiliser comme les compteurs actuels la consommation électrique, il va, entre guillemets, mieux la voir et il va notamment tout comptabiliser, même les consommations des appareils qui ont un cosinus phi inférieur à 1. C'est-à-dire tous les appareils à moteur actuellement, donc soit les frigos, les ventilateurs, les aspirateurs, les robots ménagers, enfin pratiquement tous les appareils électriques ont des moteurs, enfin il y en a peu qui n'en ont pas. Et donc ces appareils-là vont avoir leur consommation mesurée et donc facturée augmentée de 20 à 30%. À cause du fait que cette différence technique, en fait, entre les compteurs Linky et les compteurs actuels. Et donc, l'augmentation des factures, ça, c'est l'un des problèmes aussi qui fait que alors, on sait qu'au Canada, en Italie, en Espagne, où ils sont passés aussi à des compteurs communicants, toutes les factures ont augmenté. Bon, il faut bien qu'ils récupèrent l'argent qui... Parce qu'au départ, c'est eux qui investissent, mais bon, c'est nous qui payons, en fait. Ils disent que c'est gratuit, oui, parce que leur argument, c'est de dire « vous n'avez rien à payer ». Mon œil, regardez vos factures, regardez l'augmentation de la CTA, et vous allez savoir que ça, c'est le prix du Linky.
D'accord.
Mais bon, alors, le compteur lui-même, c'est le patron de EDF, Henri Proliot, qui elle avait dit, c'était publié dans le Canard enchaîné, je ne sais plus en quelle année, chaque compteur coûte 200 à 300 euros. C'est comme ça que si on multiplie par 35 millions, on arrive au prix de 7 milliards. Et si on multiplie donc pour 200 euros et 300 euros multiplié par 35 millions, ça fait 10,5 milliards. Donc, quand ERDF actuellement dit que ça va coûter 5 milliards, eh bien, on se demande d'où ils tirent leurs chiffres. C'est juste un truc tiré du chapeau, mais qui ne correspond pas à la réalité.
Est-ce qu'on peut remonter un peu la pelote
sur les pannes?
Condensateur.
Concentrateur. Ah oui, alors, c'est vrai, oui, je me suis égarée là. Donc, vous avez donc chez cette personne, il y avait donc trois compteurs Linky. Vous savez, dans les HLM, souvent, les compteurs sont dans des colonnes, des gaines techniques. Donc là, c'était le cas. Et donc, trois concentrateurs et en dessous, trois compteurs Linky et en dessous, trois concentrateurs. C'était écrit dessus, concentrateur. Donc, c'est quand même assez inhabituel qu'on mette le concentrateur au même endroit. Mais donc, cette fille s'inquiétait pour sa mère qui avait la tête collée au compteur, enfin le lit à l'intérieur de la chambre, donc donnant sur ce mur-là. Et elle avait raison, puisque là, on en a parlé, nous, en juillet 2015, et en septembre 2015, sa mère a eu un AVC. Mais en juillet, ce que je lui ai posé comme question, c'est « Mais est-ce qu'ils n'ont pas des problèmes sur leurs appareils ?» Alors, elle commence par me répondre « Non, je ne crois pas. » Et puis après, elle me dit « Oh, mais si, puisque tu m'en parles, ils sont tout le temps chez Darty pour leur télévision et leur ordinateur qui sont tout le temps en panne, et le SAV de Darty ne comprend pas pourquoi. » Donc ça, c'était mon deuxième indice. Le premier, c'était le pressing, ça, c'est le deuxième indice. Ensuite, je suis sur le salon Marjolaine en novembre 2015, et je rencontre une personne que je connais, je lui donne un tract sur le Linky. Alors, elle voit écrit Linky, elle dit « Oh, mais ils nous ont contactés, ils nous ont écrit en mai-juin. » Alors, je lui dis « Mais ils t'ont changé ton compteur ?» Elle me dit « Je sais pas. » Alors, je lui dis « Mais il est à l'intérieur ou à l'extérieur ?» Elle me dit « Je sais pas. » Alors, je lance, mais comme ça, comme en l'air. Je lui dis « Oh, de toute façon, ils ne t'ont pas changé, sinon tu aurais des pannes. » Et elle me dit « Attends, mon compteur de gaz est à l'extérieur, mais mon compteur d'électricité est à l'intérieur. » Ça lui était revenu, donc ils n'ont pas changé, sinon je le saurais. Et pourtant, j'ai des pannes. J'ai mon ordinateur et ma télé qui s'éteignent tout seuls. Mais ils se rallument quelques temps après. Donc là, on voit que dans un quartier où le Linky est en cours de déploiement, ça impacte déjà les appareils électriques, les ordinateurs et les télévisions. Il y a d'autres appareils qui sont impactés, d'après les témoignages que j'ai eus récemment, c'est les thermostats de chaudière. Je vous raconterai plus tard des incidents là-dessus. Donc revenons à notre histoire de novembre 2015. Je raconte ça à une personne qui habite dans la même ville que moi et qui me dit « Ah bah tiens, mais moi aussi j'ai mon ordinateur qui s'éteint tout seul. » Elle n'a pas de télé. Et puis 15 jours après, elle me dit « Ah, ma mère a été appelée, on lui a proposé de prendre un compteur Linky et sa mère habite deux maisons plus loin. » Donc c'est la même rue. Donc c'était aussi en cours d'installation dans cette rue. Et donc ce qui s'est passé en janvier 2016 dans cette maison où sa mère a été appelée et a refusé le Linky parce qu'elle a fait en sorte que ce soit refusé, c'est qu'il y a eu une panne de 19h le soir à midi le lendemain matin. Or, dans cette maison, il y a une personne handicapée avec un lit anti-escarre qui s'est dégonflé et une machine qui l'alimente et qui ne fonctionnait plus. Or, en discutant de ça avec des professionnels de l'électricité, j'ai appris que chez EDF et ERDF, ils sont parfaitement au courant des maisons dans lesquelles il y a un besoin vital d'électricité justement pour pouvoir réparer plus vite. Donc là, s'ils n'ont pas réparé vite, c'est qu'ils ne savaient pas le réparer. Voilà, donc ces histoires de panne du Linky. Alors, j'ai eu des éléments complémentaires en allant en Ariège le 12 mars de cette année, où j'avais été invitée pour une conférence. Il y avait 250 personnes, parce qu'en fait, dans les endroits où le compteur Linky est déjà en cours de déploiement, il y a une levée de boucliers énorme. Et si vous entendez parler... alors, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant, mais il y a aussi énormément de personnes qui refusent ce compteur ou qui l'ont accepté sans savoir et qui maintenant sont embêtés. Alors, par exemple, il y a une dame qui a raconté qu'elle était absente et son jardin, son compteur est dans le jardin, mais on peut rentrer dans le jardin, il n'y a pas de serrure. Donc, ce qu'ont fait les poseurs, c'est que pendant son absence, ils ont pénétré dans sa propriété, violation de propriété, et ils ont changé et remplacé le compteur par un Linky. Quand elle est revenue, elle avait son radiateur de la salle de bain, un vieux radiateur à bain d'huile qui ne fonctionnait plus, mais plus embêtant, son autre gros radiateur, le seul qu'elle utilise dans sa maison, son thermostat était grillé, un petit peu comme un téléphone portable dont vous n'avez pas le code, vous avez un écran, mais vous ne pouvez rien en faire. Donc, elle a appelé ERDF, qui bon, m'a pris son... Une semaine après, comme il ne se passait toujours rien, elle a rappelé. Alors, eux, ils l'ont dit, oh, mais on a transmis au poseur, pour nous, c'est réglé. Donc, elle appelle le poseur, qui vient, qui lui dit, ah non, mais ça, c'est pas de notre ressort. Donc, elle rappelle ERDF, qui vient, et qui dit, enfin, qui finit par faire un diagnostic, c'est qu'il y a une carte à remplacer qui coûte 60 euros. Donc, aux dernières nouvelles que j'ai eues, ça c'était au mois de mars, elle était 3 semaines sans, à 15 degrés, puisqu'en fait, elle avait réglé son thermostat de chauffage à 15 degrés pendant son absence. Et elle était à 15 degrés pendant 3 semaines. Donc, je suppose qu'aujourd'hui, c'est réglé. Il faudrait que je reprenne contact avec elle pour savoir comment ça s'est réglé. Mais j'ai eu aussi en ligne une personne qui est retraitée de EDF. Et lui, un syndicaliste qui est très, très choqué par ce déploiement de ce compteur, qui le refuse pour chez lui. Il y a beaucoup de gens de l'interne EDF, des retraités notamment, qui préviennent tout le monde en disant il faut absolument refuser ce compteur. J'en ai encore parlé ce matin avec une dame retraitée qui, bon, elle me dit oui, cette histoire de compteur, comme on entend plein de choses. J'ai demandé à un ami à moi qui a travaillé chez EDF, il m'a dit ah, il faut le refuser. Donc c'est pour vous dire qu'au sein d'EDF, il y a beaucoup d'informations qui circulent dans le sens du refus. Et alors lui, il m'a dit qu'il avait une amie retraitée de ERDF qui, elle, a passé 2 mois sans chauffage parce que son thermostat aussi a été grillé par un compteur Linky. Même les retraités de ERDF subissent les conséquences. Il faut savoir que cette entreprise, ERDF, n'en a vraiment rien à cirer des problèmes qu'elle cause. C'est une culture d'entreprise. Hein, je vous lirai tout à l'heure à propos des incendies un témoignage qu'on a eu là-dessus. Donc il faut savoir que en plus, alors il y a des gens qui ont témoigné avoir perdu tout le contenu de leur congélateur grillé. Là, ce que je vous ai raconté jusqu'à présent, on peut considérer que ce sont des anecdotes, mais nous avons le collectif de l'Indre-et-Loire qui a déniché sur le site internet du syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire, le CIEL, un rapport fait sur l'expérimentation sur le Linky qui a eu lieu en 2010-2011 dans cette région. Ils ont installé à peu près 150 compteurs Linky. Donc c'est un rapport fait par la société Territoire Décision. Donc ils expliquent qu'ils ont interrogé par téléphone 1500 personnes qui ont eu la peau du Linky. Et alors voilà les retours. La lampe tactile s'allume toute seule, 5 personnes. L'installation disjoncte très souvent, 38 personnes. Plus d'eau chaude, 11 personnes. 21 remarques en lien avec le problème de passage heure creuse, heure pleine, qui peut conduire à des surfacturations, du coup, puisque. Et puis, nette augmentation de la consommation, 20 personnes. Facture plus élevée, 39 personnes. Qu'est-ce que je vois d'autre encore de significatif? Alors, pour les lampes tactiles, il faut savoir que c'est un problème que même ERDF a reconnu dans une lettre que j'ai quelque part. Ils disent qu'il y a un problème de standard. Et enfin, ce qui se passe, c'est que partout en France, que ce soit à Pau, à Gap, j'ai des témoignages en direct, ou quand nous avons eu la grande réunion contre Linky la semaine dernière, il y a des témoignages aussi, je crois, qui ont été dits à ce sujet-là. Les lampes tactiles, soit elles s'allument toutes seules entre minuit et 6 heures du matin, soit elles clignotent. Voilà. Donc les gens sont. Donc, au départ, les gens les jettent, pensant que c'est la lampe qui est défectueuse. Et une dame, justement, à Gap, dont je vais vous parler tout à l'heure, puisqu'elle a eu un problème d'incendie, elle m'a dit qu'elle avait donc sa sœur qui travaille chez un vendeur de luminaires. Et c'est comme ça qu'ils se sont aperçus que, il y a un problème sur ces lampes avec les compteurs Linky. C'est-à-dire qu'il y a pratiquement toutes les personnes qui ont un compteur Linky installé, avec ces lampes-là, ça déconne, quoi.
Mais est-ce qu'on sait expliquer? Est-ce qu'on explique ce phénomène des pannes?
Alors, le problème des pannes, c'est très simple à expliquer. C'est-à-dire que le Linky injecte des fréquences, donc de 63 000 Hz à 74 000 Hz, dans des circuits qui sont prévus pour le 50 Hz, la fréquence de l'électricité. Donc les appareils ne sont pas prévus pour ça. Aucun appareil n'est prévu pour ça. Je donne souvent l'analogie, c'est comme si vous injectiez de l'essence dans un moteur diesel ou vice-versa. Ça ne fonctionne pas et ça ne fonctionnera jamais. Donc, si vous voulez, il y en a qui disent que ce sont des erreurs de jeunesse, vous savez que ça va s'arranger avec le temps, etc. Non, là, je ne sais pas si c'est trop proche à la fois de 50 Hz ou parce que apparemment il y avait des problèmes déjà avec le CPL haut débit, c'est-à-dire le CPL quand vous achetiez un boîtier pour transformer vos câbles électriques et avoir Internet sur vos câbles électriques, les boîtiers CPL. Il y a déjà les box free maintenant, je crois, qui sont équipés aussi avec ce système-là. Mais là, c'était à 30 MHz. Donc, il y a surtout les radioamateurs qui se plaignaient parce que c'était proche de la CB qui est à 27 MHz. Donc, ça créait des interférences pour ces personnes-là. Mais il n'y avait pas tellement de témoignages, à ma connaissance, d'interférences avec des appareils électriques. Mais là, ça doit être peut-être trop proche. Alors, une autre chose que dit ERDF et qui est complètement fausse, elle dit que ces fréquences CPL sont utilisées depuis des dizaines d'années, et en tout cas depuis des années, pour changer justement, donner le signal du contacteur jour-nuit sur les compteurs bihoraires. Vous savez, les compteurs qui ont heure creuse, heure pleine. Mais il ne faut pas les croire, parce que ce signal, il est envoyé sur la fréquence de 175 Hz, et non pas entre 63 000 et 74 000 Hz. Donc ce n'est pas du tout pareil. En plus, le compteur Linky, il émet non pas une fois par jour, comme ils prétendent maintenant depuis que les gens se rebellent, mais il émet toutes les 10 minutes, il remonte la courbe de charge. Donc, c'est en permanence. Si vous avez 35 millions de compteurs qui injectent dans tous les circuits toutes ces fréquences en permanence, l'électricité, elle est folle, quoi, elle devient folle.
Bon, alors deuxième effet du Linky, et on va faire une petite pause musicale.
Paris Pluriel, 106.3, et c'est Vive la Sociale, toujours avec Annie Lobé, et en cause du compteur Linky.
Troisième effet du Linky, les incendies, c'est ça?
Eh oui, ERDF a reconnu, c'est-à-dire en fait c'est le patron du Linky, le directeur du programme Linky qui s'appelle Bernard Lassus, qui l'a reconnu en direct sur la radio RMC le 16 janvier 2016. C'est une auditrice qui lui posait la question et il a répondu « On a eu 8 problèmes ». Mais un incendie n'est pas seulement un problème. Un incendie, comme vous le savez, peut causer un homicide, c'est-à-dire tuer des personnes, détruire les biens. Donc cette reconnaissance de 8 incendies par le directeur du Linky, ça les embarrasse tellement que maintenant, ils disent qu'il n'y a pas d'incendie. Mais sauf qu'il y en a. Notamment dans ce rapport dont je vous citais tout à l'heure des extraits par rapport aux pannes, il y a également un autre phénomène qui est mentionné. C'est 3 sur 1500 personnes qui répondent, 3 personnes qui disent, donc 2, le compteur a pris feu et fondu, et 1, le disjoncteur a pris feu. 3 incendies pour 1500 personnes, ça fait un taux de 0,2%. Si vous ramenez ce taux de 0,2% à 35 millions, ça fait 70 000 incendies supplémentaires. Donc c'est quand même beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a eu des nouveaux incendies depuis le déploiement? Eh bien, j'ai des témoignages. Par exemple, ce retraité de EDF m'a dit que dans la ville où il habite, qui s'appelle COS, COS en Ariège, il y a un compteur qui a pris feu, juste derrière chez le maire. Alors il me dit, là, c'est un problème de serrage. Alors c'est effectivement ce qu'avait dit pour s'excuser, entre guillemets, pour expliquer les incendies, ils disent que c'est les installateurs, les poseurs, qui ne serrent pas assez les vis, et donc c'est ça qui cause l'incendie. Donc là, c'est ce qui s'est passé à COS. Mais pourquoi les installateurs ne serrent pas assez les vis? Parce que ce ne sont pas des électriciens, figurez-vous. Les critères de recrutement, c'est pas d'expérience demandée dans le métier. C'est un critère de recrutement pour les poseurs de Linky.
Parce qu'il faut dire que ces poseurs, c'est des boîtes de sous-traitance qui les pratiquent.
Tout à fait. Des sous-traitants qui eux-mêmes recrutent, puisqu'il y a un surcroît de travail en ce moment, des personnes absolument pas qualifiées. Alors, ils leur donnent une formation, ou pas d'ailleurs, puisqu'on a même le témoignage là de quelqu'un qui a parlé avec un poseur. C'était un gars qui était en intérim. Donc un intérim, on ne va pas lui faire 3 semaines de formation. On le met directement sur le truc. Donc, alors maintenant, ERDF dit qu'il leur donne des pinces dynamométriques pour que le serrage se fasse bien. N'empêche qu'en Ariège, il y a eu au moins un incendie de compteur lié à un défaut de serrage. Donc ça veut dire que le problème continue. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai discuté avec un responsable territorial d'une grande entreprise, Engie, qui avait soumissionné pour la pose des Linky dans son département. Et voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que lui, avec ses gars, comme il les appelait, qui avait une expérience de 20 ans dans la pose de compteur, il arrivait à 55 euros par compteur à facturer à ERDF. Et celui, l'entreprise qui a arraché le marché, elle l'a arraché à 45 euros. Donc évidemment, ce n'est pas le même genre de personne, ce n'est pas le même profil de personne. Et le problème, si vous voulez, ça va même plus loin, cette histoire d'incendie. C'est qu'en réalité, il y a un vice inhérent au Linky, c'est que le poseur de Linky, quand il a fini de poser le compteur, il déplombe le disjoncteur, il règle le disjoncteur au maximum de sa puissance. Et pourquoi il fait ça? C'est parce qu'après, ERDF se targue, d'ailleurs, dans toutes ses publicités, de pouvoir faire à distance des changements de puissance. Avant, il fallait que quelqu'un vienne justement faire ce truc-là, changer physiquement, manuellement le compteur. Mais celui qui faisait ça avant, c'était un électricien, donc il savait déterminer si l'installation électrique est apte à supporter ce changement de puissance. Aujourd'hui, avec les poseurs de Linky qui n'ont aucune formation, aucune qualification, qui ne sont en tout cas pas électriciens, eh bien, ils ne peuvent pas savoir si ce qu'ils font peut créer des problèmes dans l'installation électrique ou pas. Et c'est plusieurs électriciens, au moins une quinzaine à qui j'en ai parlé, qui m'ont dit que probablement eux, ils ne feraient jamais ça de changer. Donc, parce qu'il faut savoir que ça ne dure que 30 minutes, la pose du compteur Linky. Donc non seulement les poseurs ne sont pas électriciens, mais en plus, ils sont pressés. Donc ils travaillent à la va-vite. Et donc, les électriciens, eux, ils ne feraient pas ce genre de changement de réglage du disjoncteur sans vérifier ce qu'il y a dans le tableau électrique. Et il y en a un qui m'a dit carrément que de faire ça, ça pose des problèmes de sécurité électrique dans toutes les installations qui ne sont pas en conformité avec la norme NFC 1500 de 2005. Donc ça fait beaucoup d'installations électriques, hein, parce que 2005, c'était qu'il y a, il y a 11 ans. Donc voilà, il y a un problème autre. Alors, quand je parle de vice inhérent, c'est que justement, alors, il compte en fait, ce système Linky, sur la disjonction par le compteur lui-même. Donc c'est le compteur qui va disjoncter quand il va arriver au maximum de la puissance souscrite. Premièrement, le compteur Linky, il est beaucoup plus sensible, si j'ose dire, que le compteur actuel, parce que le compteur actuel accepte des dépassements, alors que le compteur Linky, absolument pas. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que quand ce compteur va disjoncter, il sera à pleine puissance. Un compteur qui disjoncte quand il est à pleine puissance, ça peut provoquer un arc électrique, et un arc électrique dans un compteur électrique, ça peut provoquer un incendie. Et donc, comme ici, là, vous avez entendu tout à l'heure, plusieurs dizaines de personnes ont mentionné ce problème de compteur qui disjoncte. Je ne sais plus si c'était... Enfin bref, il y a vraiment un gros problème. Je crois que c'était 21 personnes en tout. Hein. Non, c'était pas ça. Enfin bref, il y a beaucoup de... dans la disjonction, je ne sais plus où c'est. En tout cas, il y a beaucoup de problèmes de disjonction. Parce que, en fait, les gens qui sont à la limite de la puissance souscrite, eh bien, ça va disjoncter souvent. Donc, il y a ce risque d'incendie récurrent. Ce n'est pas seulement le problème de serrage, ça que je veux dire. Même si le compteur est bien posé, le risque d'incendie, c'est pendant toute la durée de fonctionnement de ce compteur.
Juste une petite parenthèse. Je saute un peu du coq à l'âne, mais là, il était question de l'emploi, de la création d'emplois, qui serait lié à la pose des compteurs Linky. Je crois comprendre que EDF, RDF font beaucoup de tapages sur la création d'emplois. Mais en réalité, ça rime à quoi cette histoire-là ?
Ben déjà, ils commencent par supprimer tous les... Enfin, leur intention est de supprimer tout le travail des poseurs, enfin, des releveurs. C'est-à-dire celui qui venait avant chez vous pour relever le compteur. Il devait faire toute la rue, etc.
C'est quand même, sans doute, une des motivations importantes de ce déploiement des Linky.
Oui, c'est ce qu'ils...
L'économie à long terme, sur la relève.
Oui, c'est ce qu'ils disent. Mais vu le prix que ça coûte, ce compteur, je ne sais pas, enfin, dans combien d'années, parce que ces gars-là, ils ne sont pas tellement payés. Enfin, je ne sais pas combien ça coûte, mais en plus, c'est déjà des sous-traitants. C'est déjà des personnes à qui on va proposer d'être poseurs de Linky. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, ils n'ont aucune formation. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà discuté avec le releveur qui vient chez vous, mais il n'a pas besoin d'être électricien pour faire ça. Donc, on prend des gens qui ne sont pas électriciens, ça, c'est sûr et certain. Et alors donc, juste en passant, j'ai retrouvé ces 38 personnes sur 1500 qui ont dit l'installation disjoncte très souvent. Donc, ça fait quand même beaucoup de risques d'incendie. Donc, ce problème, c'est un problème qui inquiète beaucoup les syndicats, cette suppression de postes. Mais ce n'est pas seulement la suppression de postes, c'est aussi la suppression de la maintenance. Par exemple, le 4 juillet, il y a le responsable du syndicat CGT de Paris, Énergie Paris, qui a parlé dans une réunion qui était donnée à la mairie du 10e arrondissement de Paris. Et alors là, lui, il a expliqué qu'il était inquiet pour le compteur de gaz, en expliquant qu'avec le compteur Gaspard, il va y avoir 70% d'interventions de maintenance en moins. Or, chaque intervention de maintenance donne lieu à une vérification des fuites. Et je sais qu'il dit vrai, parce que moi, j'étais absente pendant un certain temps, donc j'ai appelé, parce que ça marchait pas trop mon feu, là, donc j'ai appelé, et c'est vrai qu'à la fin, il m'a réglé le problème, et à la fin, il a mis un espèce de savon sur le compteur, il a vérifié s'il n'y avait pas de fuite. Donc c'est vrai ce qu'il dit. À chaque intervention, ils en profitent pour faire de la maintenance préventive. Si vous supprimez 70% d'interventions de maintenance préventive, ben vous allez forcément avoir plus d'accidents, même graves, causés par les fuites de gaz. Donc ça, il faut vraiment comprendre que ces deux systèmes, Linky et Gaspard, vont, par la diminution de la maintenance, de la présence sur le terrain des techniciens, vont diminuer la sécurité des réseaux, réseaux électriques et réseaux de gaz. En plus, il faut savoir que tous ces réseaux sont des réseaux qui sont archi anciens. La moyenne d'âge des transformateurs, c'est 45 ans. Et ce responsable syndical expliquait que le problème, c'est que ça chauffe énormément. Il nous disait, par exemple, pendant les périodes de canicule, sur les trottoirs à Paris, vous allez avoir peut-être 35-40 degrés, mais en dessous, vous avez 70 degrés. Donc, tous ces fils qui chauffent, à un moment donné, comme ils ne sont pas suffisamment remplacés, il y a un gros déficit, en fait, ERDF a, pendant 10 ans, n'a pas du tout fait le travail. Donc maintenant, ils se sont un peu rattrapés, mais au lieu finalement d'entretenir vraiment les réseaux, les fils, changer les fils, etc., eh bien, ils investissent tout dans le Linky. Et donc, on va se retrouver avec toute une installation électrique archi vulnérable, vulnérable aux pannes techniques, parce qu'il n'y aura pas de maintenance.
La SNCF et son TGV qui n'entretient pas les lignes classiques parce qu'elle met son argent dans le développement des lignes TGV.
Avec les accidents, comme on a vu à Brétigny, où là, la responsabilité de la SNCF est directement en cause. Donc, quand ce sera la même chose, mais avec des incendies ou des pannes irréparables, parce qu'on ne saura pas où, les fils qui sont dans les trottoirs, s'il y en a un qui fond, pour savoir où c'est, ça ne va pas être trop facile. Donc, bref, on va vers un monde où de l'électricité, le confort, l'électricité, la fée électricité, ça va devenir l'enfer électrique, parce que justement, tous ces systèmes sont conçus, inventés, pensés par des ingénieurs qui n'ont pas les mains dedans. Et on va en plus retirer les techniciens qui ont les mains dedans. Moi, j'appelle ça les ingénieurs 3D. C'est comme ceux qui ont conçu l'EPR. Quand vous regardez c'était assez émouvant d'ailleurs. Je voulais avoir une vidéo de construction de l'EPR. Donc, je cherche et puis je tombe sur la vidéo de la construction de la centrale de Fukushima. Mais là, au moins, c'était une vraie vidéo avec des images, des hommes, etc., qui posaient des trucs. Pour l'EPR, aucune vidéo, que des images en 3D. Alors, l'EPR, c'est super en 3D, mais dans la réalité, ça ne fonctionne pas. On a vu qu'ils n'arrivent pas à le construire. Eh bien, pour le Linky, c'est un petit peu la même chose. D'ailleurs, c'est la même société, c'est les mêmes ingénieurs. C'est des gens qui pensent des choses. Alors, dans un monde, je dirais, fantasmé, c'est géant, leur truc. Évidemment, les réseaux, tout s'équilibre, nanana. Alors, un des objectifs aussi qu'ils ont, c'est de pouvoir passer aux véhicules électriques. Le véhicule électrique, on ne peut pas le charger, évidemment, au moment où tout le monde, au moment des pics d'électricité.
La voiture électrique.
La voiture électrique, oui. Donc, ils ont prévu, avec ce système Linky, que les compteurs bloquent la recharge des voitures pour ne démarrer que dans la nuit, quand plus personne n'a besoin d'électricité. Sauf qu'en réalité, ces trucs-là, ça ne fonctionne pas. On a eu le témoignage d'un type qui a déjà une voiture électrique plus un Linky. Et il a expliqué que ces batteries, elles se sont usées prématurément, que le vendeur ne comprenait pas, que d'autres personnes qui avaient acheté la même voiture que lui, mais qui n'avaient pas de Linky, n'avaient pas eu ce problème. Parce qu'en fait, ils ont l'intention aussi, de quelque part, de pomper les batteries qui sont rechargées pendant les pointes. Enfin, c'est un système, mais sur le papier, c'est génial. Sur ordinateur en 3D, c'est génial. Mais sauf que dans le monde réel, si vous voulez, il y a des règles de physique qui font que ça ne fonctionnera pas. Entre autres parce que il y aura trop de fréquences différentes. Ça, est-ce que vous avez entendu parler de l'Internet des objets ?
Oui. Oui, c'est la maison intelligente.
Voilà, la maison intelligente. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça aussi, c'est un des rêves de tous ces ingénieurs. Il y a le président de Orange qui s'appelle Stéphane Richard, comme vous le savez. Et on a trouvé donc une vidéo que vous pouvez voir sur le site santépublicédition.fr. Quelqu'un qui m'a envoyé ce lien et j'ai trouvé intéressant de le partager avec tout le monde. Il y a une page qui s'appelle « Linky, l'essentiel de l'enquête ». Donc, je vous suggère d'aller voir ça parce que vous allez vraiment être édifié sur ce qu'on a trouvé sur l'Internet des objets, notamment avec cette vidéo donc, de ce patron de Orange qui fait une conférence. Alors, on le voit là, qui parle complètement comme dans une secte, quoi. On voit avec des personnes en face de lui qui sont complètement comme des zombies. Enfin, voilà ce qu'il raconte, entre autres, qui m'a vraiment frappé. Vous êtes en train de regarder la télévision, mais vous êtes un peu fatigué. Alors, vos yeux se ferment. Et la caméra qui est dans votre télévision s'en aperçoit, transmet le message à votre cafetière qui démarre un café automatiquement. Voilà le genre de monde dont ils rêvent pour nous. Leur rêve, n'est-ce pas, est notre cauchemar, évidemment. Hein, ce n'est pas du tout ce genre de monde dont on rêve. Alors, il faut savoir aussi se demander, mais pourquoi ils veulent nous mettre là-dedans? Bon, vendre nos données, c'est une chose. Mais il y a aussi autre chose. Parce qu'en fait, les entreprises qui nous mettent dans cet entonnoir de ces réseaux intelligents et de ces objets connectés, elles ne sont pas si nombreuses que ça, celles qui ont décidé du truc au départ. Il y a EDF, bien entendu, avec Schneider Electric au-dessus et Enedis, ERDF en dessous. Il y a aussi Capgemini, société de services informatiques, Cisco, société de services informatiques, Sopra Steria et Orange, qui gagne donc tout le marché GPRS, donc des concentrateurs. Également Atos, société qui est basée à Munich et qui a gagné le marché de toutes les interfaces logicielles du Linky. Et donc, ces entreprises... ce qui s'est passé, c'est que toutes ces grosses boîtes informatiques, jusqu'à l'an 2000, elles ont eu un boom de boulot, puisque les entreprises craignaient le bug de l'an 2000, et donc on fait travailler ces entreprises à plein régime. Et puis ensuite, bon, ça s'est bien passé, à savoir est-ce que c'était une chimère qu'ils ont agitée pour avoir du boulot ou qu'ils ont bien fait le travail, peu importe, en tout cas, il n'y a pas eu de bug de l'an 2000, mais en tout cas, ce qu'il y a eu après, c'est qu'il y a eu une baisse d'activité pour toutes ces entreprises. Elles se sont demandé qu'est-ce qu'on va faire. Et c'est là qu'en 2004, elles ont commencé à avoir ces idées de faire des objets, tous les objets connectés. Comme ça, il y aurait besoin d'informatique partout. Hein. Le problème, c'est qu'entre-temps, il y a le piratage qui est sorti. On sait aujourd'hui, les hackers, etc., la puissance qu'ils ont, on a eu un petit échantillon avec TV5 qui s'est fait pirater, qui a eu tout son site bloqué, etc. Ça leur a coûté des millions hein, pour se remettre à flot. Il y a une autre anecdote aussi que j'ai apprise dans un livre très intéressant que je vous suggère aussi de lire vraiment. C'est le livre qui s'appelle « Cyberfragile » de Blaise Mao et Thomas Saint-Ourens aux éditions Talendier. C'est un livre qui explique beaucoup de choses sur la cyberguerre, les piratages, toutes les affaires qui sont connues dans le milieu des gens qui travaillent sur la sécurité informatique, mais que nous, on ne connaît pas. Et donc, par exemple, ils expliquent dans ce livre qu'aux États-Unis, une très grosse société qui a 110 millions de clients s'est fait pirater sa base de données de clients et les pirates sont entrés par un prestataire de services qui s'occupe de la climatisation dans ces entreprises. Et à partir de là, ils ont mis des vers. Alors, maintenant, les virus, c'est complètement démodé. Maintenant, c'est des vers. Enfin bref, vous saurez tout en lisant le bouquin. Et donc, ils ont réussi à pénétrer dans la base de données clients à partir de cette entrée-là. C'est pour dire qu'en fait, une fois que toute l'électricité sera en réseau, il y a un risque énorme, c'est le risque de blackout. Blackout généralisé, ça veut dire plus d'électricité du tout. C'est déjà arrivé dans certaines villes, par exemple à New York. Bon, ça a été réglé en quelques heures, en quelques 24 heures, 36 heures. Mais le problème n'est pas vraiment le blackout d'une journée. Le problème, ce serait le blackout de 3 semaines. Et là-dessus, dans ce livre de Blaise Mao et Thomas Saint-Ourens, qui s'appelle donc « Cyberfragile », il est cité un expert en cybersécurité qui a dit donc à ces deux journalistes qu'il a réussi à craquer un compteur Linky en 3 heures. Alors, je l'ai appelé. Et alors là, il me dit, il me confirme que ça fait 30 ans qu'il travaille là-dedans, etc. Alors il me dit, non mais les journalistes n'ont rien compris à ce que j'ai dit, j'ai pas du tout dit ça. Alors je dis, mais vous avez craqué quoi finalement? Alors il me répond, j'ai craqué un gateway TIC. TIC, T-I-C. Gateway, ça veut dire voie d'accès. Bon, sur le coup, j'ai gobé ce qu'il m'a dit. Sauf qu'après, je me suis rendu compte que le gateway TIC, c'est bien un des éléments du compteur Linky qui va servir pour le URL. Donc, voilà, il a bien réussi à craquer quand même un compteur Linky en 3 heures. C'est un élément du compteur Linky qui est peut-être pas encore, pour l'instant, opérationnel, mais qui va l'être. Et alors donc, je lui dis, mais vous savez très bien que vous ne pourrez jamais sécuriser 100%, à 100%. Il me dit, je le sais bien. Après, il ajoute, les catastrophes sont devant nous. Alors, à la fin de la conversation, je lui dis, mais puisque vous êtes... persuadé que ça ne le fera pas, il faut que vous préveniez. Vous, en tant que professionnel, c'est votre responsabilité de prévenir les autorités, de prévenir les entreprises, qu'il ne faut pas qu'elles s'engagent dans cette voie de tout numériser, tout informatiser à outrance, les réseaux électriques, etc. le cloud, enfin tout ça, c'est des pièges, c'est des mirages totaux, il faut vraiment éviter. Et alors il me répond, je ne pense pas que ce genre d'action ait une efficacité. Donc il a refusé en fait de faire ce que je lui demandais. Et alors dans ce cas-là, je lui ai raconté une anecdote. Je lui ai dit, voyez, vous en tant que professionnel, vous savez des choses et vous les cachez. Sachez que si vous avez un téléphone portable dans la main, c'est parce que d'autres professionnels ont fait la même chose que vous dans un autre domaine. Et je lui ai raconté l'histoire suivante qui est vraie. Donc c'est qu'en 2008, un ami à moi qui se trouvait à la gare de Lyon, en train d'attendre un TGV pour Montpellier, donc il est dans le milieu du spectacle. Il parlait avec un autre, qui était aussi dans le milieu du spectacle, d'un troisième qui avait une tumeur du cerveau. Pourquoi ? Parce que dans ce milieu, ça fait très longtemps qu'ils utilisent les téléphones portables, donc ils avaient déjà en 2008 les effets. Et alors, derrière eux, il y a un homme qui s'est joint à leur conversation et qui leur a dit « Je suis neurochirurgien au CHU de Montpellier. J'opère actuellement des tumeurs, soit à droite, soit à gauche, chez des personnes qui ont téléphoné au portable 1 à 2 heures par jour depuis 10 ans. Et en plus, quand j'ouvre le cerveau pour enlever la tumeur, je m'aperçois que les vaisseaux sanguins dans la région de l'oreille sont endommagés. » Ça, c'est l'acte 1. L'acte 2, c'est que j'ai rencontré un médecin généraliste de Montpellier qui me dit qu'il connaît tous les neurochirurgiens du CHU de Montpellier. Donc, je lui demande de leur demander à ces hommes, donc ces professionnels, soit de me contacter pour faire un témoignage anonyme dont je garantirai l'anonymat, soit, encore mieux, de faire une publication dans une revue scientifique. Ça s'appelle une étude de cas. Et il y a déjà, par exemple, l'affaire de la thalidomide. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était en fait un médicament qui était donné aux femmes enceintes pour éviter qu'elles aient des nausées. Et on s'est aperçu que ça provoquait des malformations chez leurs enfants. Comment cette affaire est-elle sortie ? C'est parce qu'il y a un médecin, un gynécologue, qui avait donné, donc prescrit ce médicament à plusieurs femmes. Il s'est rendu compte que deux de ses patientes avaient eu des enfants, deux ou trois, je ne sais plus, des patients mal formés. Il a publié cette étude de cas. Et après, dans le monde entier, d'autres médecins ont vu que eux aussi, ils avaient le même cas. Et c'est comme ça que l'affaire est sortie. Donc, une étude de cas, c'est très important. Ça peut être vraiment, ça peut révéler une affaire de santé publique. Donc, voilà. Et malheureusement, quelques mois plus tard, j'ai revu ce médecin et je lui ai dit, alors, comment ont-ils réagi ? Il m'a répondu, oui, je leur ai bien demandé, mais personne ne veut se mouiller. Aucun d'entre eux ne veut se mouiller. Et donc, si aujourd'hui, c'est ce que je disais à ce professionnel de la sécurité informatique, si vous avez un téléphone portable dans la main, c'est parce que dans un autre domaine, d'autres personnes ont fait comme vous. Des professionnels ont des informations, mais ils les gardent. Et voilà, donc ça en est resté là. Et j'espère qu'un jour, il va décider. Alors, ce que j'ai fait, par contre, c'est que, parce qu'il me parlait du blackout de New York, qu'il a travaillé dessus pendant 3 mois. Alors, je dis, oui, mais 36 heures de blackout, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est 3 semaines ou 3 mois de blackout. Et alors, je lui ai dit que j'avais écrit un article là-dessus en 2012, mais que je ne l'avais jamais publié, tellement c'était grave les conséquences et que je ne voulais pas donner en fait des idées à quelqu'un de mal intentionné. Alors, je lui ai envoyé cet article, mais depuis, je n'ai toujours pas de réaction. J'ai également contacté Guillaume Poupard, qui est le président de l'ANSSI, Agence Nationale de Sécurité des Systèmes Informatiques. C'est lui qui est censé garantir la sécurité du Linky. Et alors, au départ, je l'ai contacté pour qu'il participe à la réunion du 8. Et je tombe sur quelqu'un qui me répond. Et donc, le gars à l'accueil me dit, enfin, le secrétaire me dit, « Ah oui, c'est un de nos anciens agents. » Donc déjà, en 2 minutes, j'avais une information que lui ne m'avait même pas donnée. Et puis alors après, il me dit sur Guillaume Poupard, le 8, il est pris. Donc, je dis, c'est pas grave, c'est le soir. Il me dit, oui, mais il est pris jusqu'à 19h30. Je dis, c'est pas grave, la table ronde, elle n'est pas prévue avant 21h. Bref, donc Guillaume Poupard a prétendu qu'il était pris, qu'il ne pouvait pas venir, donc il n'est pas venu pour une raison d'agenda, mais je sais que ce n'était pas vrai. Donc, c'est pour vous dire que cette agence qui est censée être de super sécurité informatique, en fait, en 2 minutes de conversation avec le gars qui répond au téléphone, vous avez des informations confidentielles. Donc, je ne sais pas, j'espère qu'ils sont plus pros sur la sécurité informatique, mais déjà, c'est quand même inquiétant.
D'accord.
Pour dire que... Il faut s'arrêter.
Je voudrais surtout que, dans le dernier quart d'heure, vous nous expliquiez qu'est-ce qu'on peut faire pour se défendre.
D'accord. Ouais. Alors, il y a plusieurs choses à faire.
Une minute
de pause.
De pause. On reprend la conversation. Donc, l'important, ça serait actuellement, le Linky est en cours de déploiement, il arrive aussi en région parisienne, il est d'ailleurs déjà en déploiement dans une partie de Paris, je crois. Comment est-ce que les gens peuvent s'en défendre? Comment est-ce qu'ils peuvent s'en défendre quand les gens de RDF débarquent et veulent changer leur Linky? Comment ils peuvent s'en défendre collectivement? Parce que j'ai vu que sur votre site, il y avait pas mal d'éléments, il y avait des pétitions, il y avait des... Alors, est-ce que vous pouvez nous...
Expliquer, d'accord. Donc, oui, alors, il est très important de lutter contre Linky préventivement et collectivement. Pour cette histoire de panne qui peut vous arriver, même si vous n'êtes pas équipé vous-même, pour cette histoire aussi d'incendie qui peut vous atteindre, même si vous n'êtes pas équipé vous-même. Donc, lutter collectivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà prévenir ses voisins. Si vous habitez en immeuble, prévenir toutes les personnes de l'immeuble. Donc, sur le site Santé publique édition, vous avez des documents prêts à l'emploi que vous pouvez éventuellement même personnaliser pour laisser vos coordonnées, si vous le souhaitez, sur ces documents que vous pouvez donc imprimer et photocopier, glisser dans les boîtes aux lettres ou envoyer par mail à vos voisins si vous avez leurs adresses. Donc, prévenir ses voisins, c'est la première chose à faire. Il y a également des façons radicales, en fait, de refuser le Linky individuellement. On a trouvé, donc, grâce à l'expérience, en fait, hein, puisque pendant plusieurs mois, la lutte contre Linky était un peu, symbolique. C'est-à-dire qu'il y a des milliers de personnes qui ont envoyé des lettres de refus individuelles, mais quand les compteurs étaient accessibles, c'est-à-dire soit dans les gaines techniques, dans les immeubles, soit dans la rue carrément pour les maisons, eh bien, allègrement, les poseurs passaient outre. Là, on a trouvé une parade. Ça coûte un peu cher parce qu'il faut passer par un huissier, envoyer une sommation de ne pas faire. Donc, nous avons un modèle qui fait 21 pages sur le site Santé publique édition. Pourquoi 21 pages? C'est tout simple. Si au moment de l'affaire du sang contaminé, avant justement d'être contaminé, les personnes qui étaient hémophiles étaient en capacité d'écrire en recommandé ou par huissier aux responsables, aux médecins, aux ministres, attention, le sang que vous nous transfusez n'étant pas chauffé est susceptible de contenir des virus qui vont nous tuer. Eh bien, ces personnes n'auraient pas pu ensuite dire, quand la justice est venue les chercher, on ne savait pas, responsable mais pas coupable, et relax général. Donc là, aujourd'hui, puisque l'enquête a permis de déterminer des éléments de danger, eh bien, cette sommation les porte à la connaissance des DEDIS. Enedis, donc, c'est le nouveau nom de RDF. Comme ça, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas. Et donc, ce sont les moyens qui seront utilisés dans le recours qui sera posé au cas où ils passent outre. Figurez-vous qu'ils ne passent plus outre. Alors, individuellement, ça se fait individuellement, mais vous pouvez le faire en groupe quand même, dans le sens où je vous explique ce qui s'est passé, par exemple, à Maison Alfort, pour vous expliquer vraiment la stratégie, la tactique même de cette entreprise. Là, les poseurs sont arrivés, les habitants se sont opposés, les poseurs ont appelé la police. Bon, c'est un peu un cas extrême, mais enfin, il y en a beaucoup des cas comme ça, passage en force. Les poseurs ont appelé la police en prétendant que les habitants étaient armés. La police a déboulé, état d'urgence, avec des mitraillettes, a plaqué les habitants au mur pour les fouiller, devant leurs enfants pour certains. Bien entendu, ils n'ont pas trouvé d'armes. Mais pendant ce temps-là, les poseurs, ils ont fait leur travail, entre guillemets, et ils ont posé dans cette résidence de 159 logements une quinzaine, une vingtaine de compteurs Linky. Les habitants ont pris la mouche, bien évidemment, et il y en a 7 d'entre eux qui ont envoyé cette sommation. Et depuis, les poseurs ne mettent plus le bout de leur nez dans cette résidence. Donc, il n'est pas forcément nécessaire que chaque personne le fasse, mais voilà, il faut qu'à peu près 10% des habitants le fassent. On a également une affiche Alors, il y a des tarifs préférentiels. Hein. Si vous utilisez la sommation de... Souvent, les gens pensent que l'huissier, ça coûte 800 euros. Non, là, ça coûte 75 euros si vous êtes individuel, si vous êtes tout seul. Et si vous arrivez à vous mettre d'accord avec 10 autres personnes, ça tombe à 60 euros. Donc, ça reste quand même dans le domaine du possible. Si votre compteur est à l'intérieur, il faut aussi envoyer, mais cette fois-ci simplement en lettre recommandée, donc il y a un modèle spécifique, la même lettre de 21 pages, tout simplement parce que si vous envoyez qu'une lettre de 3 pages, ils vont continuer à vous harceler par téléphone, vous intimider, vous dire que c'est ce qui se passe. Hein, si vous ne prenez pas le compteur maintenant, plus tard ça coûtera 150 euros, ça coûtera 1500 euros, etc. Enfin, ils inventent toutes sortes de sornettes pour contraindre les gens à quand même accepter le compteur maintenant. Il faut savoir que les poseurs, ils ont des primes, je sais pas, 10 euros par compteur posé ou un truc comme ça. Donc, eux, ils sont incités financièrement à faire du forcing. Et c'est ce qu'ils font. Alors, après, il y a une autre façon de lutter.
Les gens qui sont dans le compteur à l'intérieur, il suffit d'envoyer des lettres commandées.
Oui, voilà. La lettre commandée va suffire, puisque de toute façon, il suffit de ne pas ouvrir votre porte pour que le compteur ne soit pas changé. Mais il est important de prévenir vos voisins pour que tout le monde dans votre environnement, même votre rue, le fasse. Alors, il faut aller un peu plus loin aussi et protéger la ville entière. Et ça, il y a déjà 250 communes, il faut le savoir, qui ont pris cette décision par délibération du conseil municipal ou par un vœu voté également en conseil municipal. Il y a même une commune qui, comme c'était urgent, la maire a pris carrément un arrêté. Donc, il y a ces 250 communes, c'est une décision de refus du Linky sur l'ensemble du territoire de la commune. Ça, c'est le but à atteindre. C'est la meilleure façon de vous protéger, de protéger tout le monde autour de vous, de protéger toute la ville. Parce qu'il faut bien penser que si il n'y a que chez vous, vous n'avez pas le compteur, eh bien, probablement, vous pouvez avoir des effets même sur la santé. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais je voudrais quand même en dire deux mots parce que, justement, comment on sait que le Linky est dangereux pour la santé? C'est parce qu'il y a des personnes électrosensibles qui ont déjà eu des effets, notamment une personne à Toulon. Justement, elle avait refusé le compteur pour son appartement, mais tous les autres compteurs ont été dans l'immeuble changés. Et depuis, elle ne peut plus rester chez elle plus de 2 heures. Elle a des symptômes, ces symptômes de l'électrosensibilité qui l'empêchent de rester chez elle. Donc, ça a des effets graves sur les personnes électrosensibles. Il y a d'autres personnes qui ont d'autres effets. Il y a des témoignages qui ont été faits justement le 8, hein, notamment un jeune de 42 ans, qui disait qu'il avait eu des palpitations du diaphragme. Donc, c'est un truc complètement... j'avais jamais entendu parler de ce genre de problème avant. Bref, donc c'est des choses un peu étranges qui peuvent se produire. Donc, c'est pas la peine d'être le cobaye. On n'a pas envie. Il y a d'autres personnes qui m'ont écrit qu'elles ressentent une fatigue immense, etc. Donc, ce Linky a des effets sur la santé. Pourquoi? Parce que les... alors, il y a un rapport de l'Agence nationale des fréquences qui dit que les niveaux sont faibles. Mais attention, c'est valable en laboratoire et in situ, c'est-à-dire chez l'habitant. Par contre, là, tous les appareils électriques réémettent les fréquences du Linky parce qu'il va y avoir un déséquilibre entre la phase et le neutre, enfin les longueurs de câbles, le fait que les appareils soient branchés aussi, ça crée un déséquilibre. Voilà. Donc, la situation n'est pas la même dans la vie réelle que dans le rapport. Donc, il faut vraiment... Alors, pour le maire, comment convaincre son maire? Donc, vous avez sur le site Santé Publique Édition plusieurs documents qui sont faits. Notamment, il y a un document qui s'appelle « Les délibérations communales de refus du Linky sont légales ». Vous pouvez soit lui envoyer par mail, soit l'imprimer, demander un rendez-vous. Enfin, tout va dépendre, si vous voulez, des relations que vous avez avec lui. Vous commencez gentiment, vous lui demandez gentiment. S'il veut pas, vous faites une pétition, vous faites une lettre commandée. D'abord gentil, ensuite un peu plus sévère. Il y a un nouveau document qui a été fait aussi, c'est les cahiers de doléances des citoyens et des élus de la République française contre les compteurs communicants, Linky, Gaspard et les compteurs à télérelève d'eau chaude et d'eau froide. Donc là, on a carrément monté à 60 pages d'arguments juridiques et techniques pour le refus de ces compteurs. Ce document est en cours de signification par huissier à 16 institutionnels. On va en faire une version aussi qui va servir pour la signification au maire, en fait, pour sommer le maire récalcitrant, si vous voulez, de prendre une délibération. C'est-à-dire qu'il faut graduer, en fait, si vous avez un maire qui comprend tout de suite, bah, c'est bien, vous êtes protégé vite, mais sinon...
Est-ce que le refus, enfin, une délibération municipale contre le Linky peut suffire à empêcher le déploiement dans la commune?
Alors, il y a plusieurs cas de figure. Hier, par exemple, où il y a Dupont-Aignan qui a pris cette délibération, lui, il n'a pas été ennuyé. ERDF a dit « on va vous envoyer un recours gracieux ». Il a répondu « faites votre travail, je ferai le mien » et s'en est resté là. Par contre, des petites communes de 30 ou 200 habitants, elles ont été attaquées en justice lors des délibérations. Donc, comme elles ne savaient pas se défendre, certaines ont été suspendues, etc. Bon, là, on a une préconisation toute simple. Si une délibération est attaquée, on l'a... Le conseil municipal se réunit, décide de l'annuler et en prend une autre. Les petites communes, il faut vraiment être déterminé, premièrement. Les petites communes, en général, Enfin, c'est pas en général, mais j'ai eu le cas de à Valence-en-Brie dans le 77, où malgré la délibération, ils ont quand même fait l'installation. Mais le maire n'était pas très très motivé. D'ailleurs, il a reçu une lettre du préfet, ou je ne sais plus s'il a été attaqué ou quoi, mais enfin bref, il y en a qui retirent leur délibération juste simplement après une lettre du préfet. Mais il ne faut pas faire ça. Il faut maintenir la délibération. Il y a plein de au moins, je ne sais pas, peut-être 150 communes qui ont reçu des courriers, soit du préfet, soit de Enedis. Ils n'ont pas bougé et ils n'ont pas été attaqués. Donc il faut savoir qu'il y a plein de communes dans lesquelles ils ne sont pas attaqués. Alors bon, là, on est surtout écouté par des communes de région parisienne, donc assez équipées, si j'ose dire, en services juridiques, etc. S'il y a une vraie conviction, il n'y aura pas de souci juridique. Il y a plein de, bon, Melun, Caen, je vous dis le site, Bagnolet, Fontenay-sous-Bois, Bondy, tout ça, toutes ces villes, si vous voulez, elles ne sont pas ennuyées. Donc... Il faut avoir le courage. Très importante la question à Paris, parce que les Parisiens, malheureusement, ne savent pas encore. Il y a beaucoup de Parisiens qui ne sont pas du tout au courant. Le déploiement a commencé dans le 10e et dans le 11e. Il y a une réunion prévue à la mairie du 19e le 6 octobre à 18h30, mairie du 19e, parce que le déploiement va commencer aussi dans le 19e. À la réunion du 4 juillet, ils ont annoncé qu'ils avaient déjà posé 2500 compteurs à Paris. Mais bon, les Parisiens ne bougent pas assez pour l'instant. Donc sur le site internet, vous avez également les adresses mail de toutes les mairies pour leur envoyer des mails. Envoyer des vagues de mails, c'est déjà pas mal. Envoyer des lettres recommandées, c'est encore mieux. Par exemple, le maire du 11e ne prend pas l'affaire au sérieux parce qu'il a reçu, enfin, à un moment donné, il disait qu'il avait reçu que 3 lettres recommandées. Donc il faut envoyer, il faut se manifester pour dire refus du Linky. Par exemple, la sommation, si vous envoyez une sommation ou une lettre recommandée, selon votre position de compteur, eh bien, envoyez le double aussi à votre maire. Voilà. Donc il faut se manifester auprès de la mairie, puisque en fait, pourquoi les communes peuvent intervenir? Tout simplement parce qu'elles sont propriétaires des compteurs. Et donc le maire a une responsabilité, comme il y a un défaut d'assurance, j'aimerais terminer là-dessus parce que c'est vraiment très important, ERDF dégage toute responsabilité dans ses conditions générales de vente, et les assureurs des communes également n'assurent pas les incendies qui se déclenchent dans des endroits... comment dirais-je, dont la commune est propriétaire ou occupant à quelque titre que ce soit. Donc s'il y a par exemple un incendie dans une école avec décès d'enfants, eh bien, ce sera le maire, on viendra chercher la responsabilité du maire. Donc c'est une motivation pour le maire pour faire cette délibération.
D'accord. Bon, bah, il nous reste bon, remercier.
Merci à vous. Et prenons le taureau par les cornes maintenant, sans attendre de recevoir les courriers d'Enedis, parce qu'une fois, quand ils envoient le courrier, ils ont déjà fait les investissements, si vous voulez, ils ont déjà acheté les compteurs. Donc prévenez-les déjà que toute cette rue-là, c'est même pas la peine d'acheter les compteurs, envoyez les courriers tout de suite, sans attendre.
D'accord. Merci encore. Nous cédons la place à Zoom Écologie.